Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, que nous puissions avoir conscience ce matin eh bien, de cette grande force que tu as placée en nous, de cette grande confiance au milieu des afflictions de ce monde, au milieu de ce monde qui ne sait absolument plus où il en est, où les règles sont bafouées, où eh bien, tes prophéties s'accomplissent, mais il y a aussi cette grande promesse de l'enlèvement. Et cette promesse, Seigneur, de ton règne. Je te remercie, mon Dieu, et c'est cela que je veux mettre en priorité dans mon cœur, afin eh bien, de ne pas simplement être attristé, mais de pouvoir aussi relever la tête, de me réjouir avec mes frères et sœurs, de savoir être un témoin, de savoir aussi avoir de la compassion pour ceux qui sont dans la douleur, mais pour aussi être ferme et rempli d'assurance pour pouvoir annoncer ta parole. Merci, Jésus, de bénir, de fortifier chacun ce matin. Amen. Je vais laisser la place.
Ceux qui nous regardent sur la télé et à ceux qui nous écoutent sur Internet, nous avons eu un moment de louange, nous avons eu le chant de notre frère Olivier avec l'orchestre du Sanctuary et maintenant nous allons passer à la parole de Dieu. Je vous invite à lire Genèse chapitre 6 verset 5. Genèse 6 verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au jardin d'Éden, l'homme et la femme ont reçu un cadeau empoisonné. Empoisonné parce que Adam et Ève n'étaient pas mûrs pour recevoir ce cadeau. Si je donne à mon petit-fils Titi une frite trempée dans le tabasco, c'est pas bon, hein? C'est comme la tarte aux concombres. Mais voilà, arrive un âge où on peut, n'est-ce pas? On peut. Dieu, dans l'absolu, voulait faire ce cadeau à l'homme et à la femme, mais il voulait le leur donner lui-même, au temps voulu, lorsqu'ils auraient atteint une certaine expérience sur cette terre. Or, le serpent ancien, je vous rappelle, c'est un serpent, c'est pas un ange déchu, c'est une bestiole, c'est un serpent, c'est un esprit d'animal. Le serpent ancien le leur a offert. Ce serpent ancien faisait partie des êtres pré-adamique, il vivait dans le jardin, il est rentré dans le jardin, il n'a pas bien gardé ce jardin, ils n'ont pas bien gardé ce jardin, ce serpent est entré et il leur a offert à la femme, à l'homme, à la femme, à la femme, à l'homme plutôt, la connaissance du bien et du mal. Dieu a alors laissé l'homme et la femme avec cette connaissance. Et très vite, Dieu vit que la méchanceté des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur étaient, se portaient chaque jour uniquement, c'est terrible quand même, uniquement vers le mal. Alors le temps passe et Dieu se choisit un homme. Dieu se choisit Noé pour le mettre à part. Et ce fut le déluge. Et puis plus tard, comme le mal avait largement repris le dessus, alors Dieu se choisit encore un homme, Abraham, et ce fut le temps de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous, Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé, il a dit un peu plus loin, il en sera comme du temps de Lot, c'est-à-dire du temps de Sodome et Gomorrhe. Puis Dieu se forma un peuple, Israël, pour le mettre à part. Et Dieu leur a donné des lois, parce que leur connaissance du bien et du mal était corrompue. Vous savez, les gens s'inventent des philosophies, des raisonnements, et finalement, ils croient avoir raison alors qu'ils ont tort. Mais ils sont sincères dans leur erreur, ils croient avoir raison. Et leur connaissance du bien et du mal s'était corrompue. Et Dieu leur donna donc Moïse, il donna Moïse à Israël, et ce fut la dispensation de la loi, c'est-à-dire l'époque durant laquelle ce petit peuple, Israël, comme l'atelier de Dieu, devait se soumettre à la loi de Dieu. Dieu leur rappelait ce que c'était le bien et le mal. Mais Israël n'a pas marché avec Dieu très longtemps. Le venin du serpent ancien continuait à couler dans leurs veines. Et Dieu les chassa de leur pays, de leur nation, de leur terre. Ce fut la déportation. Et puis ensuite, un petit reste est revenu en Terre Sainte. Et à cette époque, on trouve un homme de Dieu qui s'appelle Guinton ou Janton. Dans la Bible Vulgate, la traduction, la Bible Vulgate, dans 2 Esdras 10.3, vous trouvez le nom Janton. Mais aujourd'hui, c'est dans nos Bibles, Jérémie 10.7, en français, c'est Guinton. Quand je suis allé en Israël, j'étais très étonné de voir que dans les hôtels et partout, quand ils lisaient mon nom, ils disaient Guinton. Donc j'ai compris pourquoi les Français ont traduit Guinton et non pas Janton. Mais c'est Janton, la vérité. Hein, vous, c'est Janton. C'est Janton. C'est un prêtre fidèle du temps de Néhémie. Quand Israël est revenu, donc, après la déportation. Et puis le temps a passé et finalement, celui dont les prophéties avaient parlé est arrivé. Jésus, le Messie, celui dont Esaïe avait dit, et nous sommes en plein accord avec lui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Tant pis pour les trinitaires. Hein. Père éternel, Esaïe 9, 5, Jésus est notre Père éternel. Et Jésus a donné sa vie en rançon pour nous, il a payé le prix, afin que nous soyons libérés du mal avec un grand M, libérés de la puissance de l'ennemi, de la puissance du diable. Est-ce que Jésus a payé, c'est-à-dire du serpent ancien? C'est plus le sang, ce venin qui coule dans nos veines, ce venin du serpent ancien, c'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. A-t-il payé pour tous les humains? Est-ce que Jésus a payé pour tous les humains? Oui! Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Parce que Dieu aime le monde, Jésus a donné sa vie pour les gens de tout le monde. Mais il y a une alliance à faire. L'alliance par le sang de Jésus-Christ, par sa résurrection, par la croix, la résurrection. Il y a une alliance à faire et seuls ceux qui entrent volontairement dans cette alliance sont au bénéfice des promesses de cette alliance. On ne joue pas avec Dieu, ce n'est pas un amusement. C'est une alliance faite entre deux parties, entre celui qui a créé l'alliance, Dieu, et ceux qui veulent entrer dans cette alliance. Alors, très tôt, dans notre apprentissage de disciples de Jésus, les cinq ministères de la parole s'accordent pour enseigner au peuple la reconnaissance du bien et du mal, non pas avec l'aide de notre conscience seule, mais avec ce que Dieu dit, parce que notre conscience peut être corrompue, elle peut être trafiquée par des raisonnements pernicieux, mais il faut toujours que nous revenions à ce que Dieu a dit. Un disciple de Jésus, il apprend ce que Dieu veut en lisant en particulier le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament, c'est le livre de la Nouvelle Alliance. Bien sûr, nous avons aussi l'Ancien Testament, c'est certain. Mais c'est le Nouveau Testament qui nous donne les principes, n'est-ce pas, de la Nouvelle Alliance. Nous ne vivons donc pas comme les gens de ce monde. Nous avons des principes qui sont clairement énoncés dans le Nouveau Testament. Jésus nous a donné ses paroles, ses enseignements qui nous permettent de vivre dans ce monde sans être de ce monde. Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont décontenancés, parce qu'il semble que quand on se trouve dans ce monde avec les enseignements de Jésus et les philosophies et les idées des païens, il semble qu'il y a une large zone grise située entre le bien et le mal. Écoutez-moi bien les jeunes, c'est très important ce que je vous dis là ce matin. Les gens de ce monde ont rejeté Dieu, c'est un fait. Ils se vantent d'être sages, c'est un fait. Ils pensent que nous sommes fous, mais la Bible dit que c'est eux qui sont fous. Tout le monde dit l'autre est fou, lequel est vraiment fou? Ils sont devenus fous. Regardez ce monde. Pollution de l'air, de la mer, maintenant des denrées alimentaires. Ce matin, ma femme me faisait un jus d'orange avec des vraies oranges. Elle me disait, bon, on ne fait plus des jus d'orange, on ne prend plus les jus d'orange en bouteille parce qu'on pense que les oranges sont meilleures. Mais maintenant, on ne sait plus. C'est quand même grave, non? On en est arrivé à quelque chose de bizarre quand même. Pollution, corruption dans les religions. Vous avez vu là, à l'heure actuelle, ce qui se dit au sujet de Rome? Corruption totale. Mais attendez, ce n'est pas mieux chez les protestants ni chez les évangéliques. Corruption politique. Corruption financière. Ça, ce n'est pas nous, hein. C'est le monde. C'est eux qui se vantent d'être sages et qui veulent nous dire comment il faut faire. Drogue tueuse, légalisée, comme la cigarette. Lisez les articles. Il y a un article qui vient d'être fait par une femme. Là, ma femme m'a fait lire ça ce matin. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. C'est tueur. Guerre, et puis alors les gens se vantent d'être sages, ils vous fument dans la figure, et puis ils nous disent, vous êtes complètement dingue de croire en Dieu. Guerre organisée, pour le profit des riches évidemment, hein, c'est certain. Exploitation de l'homme par l'homme, c'est pas nous ça non plus, hein, c'est pas nous que je sache. Exacerbation de la bêtise par les médias, télévision, internet, journaux, bouquins, tout ce que vous voulez, radio. Soutien financier aux pays totalitaires, extrémistes, dangereux. C'est pas nous qui faisons ça. Ce sont des gens qui font des hautes écoles et qui ont quand même réussi à faire un trou en France de 8 milliards d'euros et qui voudraient que nous, on paye à l'heure juste, n'est-ce pas, nos impôts, sinon on est taxés encore. Eux, ils ont fait 8 milliards de déficit. Ces gens tellement intelligents de ce monde qui nous disent que nous, on est fous. Délinquance galopante. Je vous recommande de lire un excellent livre que j'ai trouvé chez Virgin qui s'appelle La France Orange Mécanique. Lisez ce livre. C'est pas un homme d'extrême droite ni une femme d'extrême droite qui a écrit ça. C'est pas politique. C'est juste un compte rendu de ce qui se passe. Juste un compte, mais pas un compte rendu d'il y a 30 ans, d'aujourd'hui là, ce qui se passe aujourd'hui. Après on dit ils sont fous ces Américains avec leurs armes. Je vous garantis que bientôt les gens auront peur de ne pas être armés ici. Je dis pas que c'est bien d'être armé. Mais j'ai dit, mais ça devient grave. Ça devient grave, mes frères et sœurs. Mais c'est hyper grave. Lisez. On nous dit que le monde change, qu'il évolue et que nous autres, nous sommes archaïques parce qu'on ne suit pas le mouvement. On nous dit que les mœurs évoluent et que nous sommes archaïques parce que nous voulons nous conformer à des principes donnés par Dieu il y a 2000 ans. Le monde, oui, le monde se libère des lois de Dieu. Ah, ils n'en veulent plus, ils ont tout rejeté. Et ils nous taxent d'intolérants. Et c'est vrai que nous avons l'air méchants. Parce qu'on est contre ceci, parce qu'on est contre cela. On est intolérants, n'est-ce pas? Parce qu'on ne les suit pas dans leur débordement. Ils nous trouvent étranges, archaïques, démodés, intolérants, méchants, à détruire. L'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église protestante, ça c'est bon à foutre au feu tout ça. C'est des religions abominables. La Bible dit « sortez du milieu d'elles ». Mais je parle des vrais chrétiens qui veulent vraiment se tenir sur les principes de Jésus-Christ. On va être persécutés, mes frères et sœurs. On va être persécutés. Lisons ce que Paul disait de notre époque. Il disait « quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. » 1 Thessaloniciens 5:3. Savez-vous que vers le 20 mars à peu près de cette année, Barack Obama va en Israël en vue de la paix et ils ont créé un logo sur lequel c'est écrit « paix indestructible ». Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors là, ils ont essayé de faire des traités de paix, hein, depuis des dizaines d'années. Ça n'a jamais marché, mais maintenant ils sont décidés. Paix indestructible, le 20 mars, vers le 20 mars, juste avant Pâques, juste avant l'élection de l'autre pape là-bas. C'est sur leur logo. Allez, vous allez voir que très bientôt, à cause de ça, ça va précipiter les choses. Ils vont se mettre très rapidement à reconstruire le temple. Quand je dis une bêtise, au moins je vois que les jeunes suivent, c'est bien. je fais exprès pour voir s'ils suivaient. Vous allez voir que très bientôt, ils vont reconstruire le temple à Jérusalem. Vous savez combien de temps il leur faut pour reconstruire le temple de Jérusalem aujourd'hui? 6 mois. 6 mois. Ils ont déjà tous les matériaux, tout est là. Tout est là. Il se pourrait bien que dans moins de 7 ans, l'Antichrist aille s'asseoir là-bas dedans. C'est ce qui est écrit qu'il va faire. Les Juifs vont, dans très peu de temps, recommencer à faire des sacrifices et des offrandes dans le temple pendant à peu près environ 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est la fête du Pourim, la fête du grand pardon. C'est ce qui remplace les sacrifices et les offrandes qui ont été annulés en 70 lors de la destruction du temple. Ils ne peuvent plus avoir des sacrifices parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'ont plus les huiles saintes, parce qu'ils n'ont plus les matériaux, parce qu'ils n'ont plus ce qu'il faut. Mais maintenant, ils ont tout réuni, même la vache rousse. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, mais pour les initiés, vous savez ce que ça veut dire. Ils ont tout, ils peuvent reconstruire leur temple, c'est prêt. Et il y aura peut-être, bientôt, peut-être l'année prochaine, il n'y aura plus de Pourim, parce qu'ils vont réinstituer les sacrifices et les offrandes. Ça durera, quand ils commenceront, environ 3 ans et demi, hein, peut-être un petit peu plus. Mais pas beaucoup plus. La suite, vous les chrétiens, nés de nouveau, vous la connaissez. Et puis si vous ne la connaissez pas, vous lisez Daniel 9, 27 en rapport avec 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 et vous aurez le tableau en 3D. Pas besoin de lunettes là. C'est clair ce qui va arriver. C'est clair. Mais Paul dit qu'avant que cela n'arrive, il faut que l'apostasie soit arrivée. Et j'aime bien la Bible qui de temps en temps glisse un mot difficile, le mot apostasie par exemple. La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire apostasie. Ils disent « Ah, il faut que l'apostasie arrive ». Oui, amen. Comme ils ne veulent pas l'avoir à l'air idiot, ils ne demandent pas ce que c'est. Puis quand ils rentrent chez eux, ils ont oublié, ils ne regardent pas dans le dictionnaire pour savoir ce que c'est. Apostasie, c'est quoi cette bête-là? L'apôtre Paul dit « Il n'y a rien de tout ça qui n'arrivera avant que l'apostasie se soit installé. C'est quoi l'apostasie? Dictionnaire. Apostasis, du grec apostasis, qui signifie abandon. L'apostasie dont Paul parle ici, c'est l'abandon public. C'est dans le dictionnaire. Public et volontaire de la foi chrétienne. C'est dans le dictionnaire Larousse de 1998. Je pense qu'ils ont fait des progrès depuis, mais je crois que ça veut toujours dire la même chose. Au temps de Paul, l'apostasie était-elle installée? Non. De nos jours, l'apostasie s'est-elle installée? Oui. Oui. Le peuple, dans sa majorité, a abandonné la foi chrétienne. Les gouvernements des pays qui avaient été christianisés aussi ont abandonné légalement la foi chrétienne. Nous sommes très avancés à l'heure actuelle dans l'apostasie. En France, 220 000 interruptions de grossesse chaque année, soit un avortement pour 3 naissances. Je ne parle pas des avortements à cause d'une maladie, à cause d'une malformation, à cause du fait que la mère peut être en danger ou des choses comme ça, ou s'il y a eu un viol, ou des choses. Je ne parle pas de ça. Je parle de 220 000 putes et putassiers qui vont piner dans tous les coins et qui font des gamins et ensuite ils vont avorter. C'est de ça dont je parle. En France, 220 000 interruptions de grossesse chaque année. Mais c'est légal, Michel. T'es intolérant. Sale bête. Et vous les voyez se promener dans la rue et vous regardez de haut parce que vous leur parlez de Jésus. Sale bête criminelle. Comme au temps de Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse, c'était la mode de tuer les enfants. Lisez les textes. Quand Jésus est né, le roi a ordonné la mort des enfants. Lisez les textes. Et quand Jésus revient, c'est aussi la mode de tuer les enfants. Lisez les textes. Et arrêtez de nous traiter de fous. Bande de fous. En Suisse, on suicide légalement. Vous voulez vous suicider? Vous allez en Suisse, vous passez dans un beau bureau, très confortable, avec des fauteuils, très cossus. Et une gentille dame, un gentil monsieur, très psychologue, vous parle. Et puis s'il voit que vraiment vous êtes motivé, que vous avez de bonnes raisons, eh bien, on va vous aider à vous suicider. Non mais c'est quoi? Ça vient en France, ça va être voté. Je ne parle même pas des lois qui sont sorties. Là. Je ne parle même pas de ça. Vous voyez, il y a une large zone grise située entre le bien et le mal. Et certains chrétiens ne savent plus où ils en sont. Ne savent plus. Alors, nous prenons tous de l'âge. Quand on a commencé la communauté, on était une bande de jeunes. Maintenant, ben, plus tellement. Mais les mêmes principes que ceux de notre jeunesse continuent à être les bons, c'est-à-dire ceux de nos parents et ceux de Jésus. Les principes de l'obéissance. Le principe de l'obéissance, il est constant. Vos parents n'exigeaient-ils pas votre obéissance? Tiens, Michou, ta maman n'exigeait pas l'obéissance? Bien sûr. Rachel, ta maman n'exigeait pas l'obéissance? Bien sûr. Ta grand-mère n'exigeait-elle pas l'obéissance de sa fille? Bien sûr. C'est comme ça. Et c'est encore comme ça. C'est normal qu'un enfant obéisse à son papa, à sa maman. C'est normal. Et nous avons un Père, notre Créateur, notre Dieu. Il est normal qu'en tant qu'enfant, nous obéissions à notre Père. Seulement voilà, la majorité ne voulant pas obéir préfère dire « Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu ». Ce n'est pas vrai qu'ils n'y croient pas. La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque cœur. Et quand ils viennent vous dire avec leur arrogance « Je ne crois pas qu'il y a un Dieu », ils mentent simplement. Ils ne veulent pas se soumettre à leur Père. Ils se libèrent de l'autorité de leur Père céleste. Ils n'en veulent pas. Ce sont des gros malhonnêtes. Ah, mais ils ne vous disent pas. Vous savez, je suis un gros malhonnête. Ah non, non, ils ne disent pas ça. Ils ne vous diront pas. Vous savez, je vous mens. Non. Ils vous diront, moi, j'arrive pas à croire qu'il y a un Dieu. Je ne peux pas. Je voudrais d'un, ouin, 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 mais je ne peux pas, ouin, ouin, ouin. Je ne peux pas croire en Dieu. Tu parles, espèce d'hypocrite. Tu fais semblant. Tu te détournes de Dieu, tu ne veux rien savoir de Dieu parce que tu veux faire ce que tu veux. Tes cochonneries, tes grosses cochonneries, voilà, c'est tout. Les religions officielles, diaboliques, ont tellement corrompu le message, il faut dire que ça a aidé aussi pas mal de personnes à se détourner de Jésus, ça aussi, hein. Maintenant, c'est reconnu, vous savez, c'est reconnu que le Vatican, c'est un nid de pédés comme c'est pas possible, mais c'est reconnu maintenant, tout le monde le sait, et puis c'est du scandale épouvantable. Voilà, bon, enfin bon. Mes frères et sœurs, il est plus important que jamais de décider dès maintenant d'être obéissant. Il y a de grandes bénédictions qui découlent de la plus grande obéissance. Alors, dans ce monde confus, qui se dit plein de certitudes, comment faire pour être paisible en soi-même et avec les autres? Eh bien, la réponse est dans le texte sacré. Je délaisserai tous mes péchés pour connaître Dieu. Voilà. Nous avons contracté des alliances avec notre Père Céleste. Nous respectons nos alliances. Nous ne les apostasions pas. Ça veut dire quoi, nous ne les apostasions pas? Nous ne les abandonnons pas. Et de peur que nous ne les abandonnions, Dieu nous a ordonné de les renouveler. Comme par exemple ce matin, on va renouveler notre alliance avec le Seigneur en prenant le pain et le vin. Mes frères et sœurs, l'obéissance nous rapproche de Dieu, de notre Père Céleste. L'obéissance nous procure la paix de l'esprit, la foi, le bonheur tranquille, l'amour, l'optimisme. Ce n'est qu'en obéissant au principe de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire du Nouveau Testament, qu'on peut accéder à ces bénédictions. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous la donne pas comme le monde donne. Les gens disent, donne-moi ta paix, puis ils restent comme ça, les bras écartés, en pensant que Jésus va faire, puis qu'ils vont recevoir la paix. Imbécile! Comment on reçoit la paix de Jésus? En obéissant à Jésus. Sinon, que pouic. Ah, mais j'ai donné mon cœur à Jésus, mais je n'ai pas la paix. Mais tu ne te rends pas compte de la bêtise que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que tu es un désobéissant quand tu me dis ça. Oui ou non? Mes frères et sœurs, un chrétien, un disciple obéissant peut être ruiné, peut être malade, peut être mourant. Il a la paix dans son cœur. Oui ou non? Je témoigne de cela, parce que j'ai vécu ça. Normalement, là, je devrais être mort, mais merci Seigneur, ça... Mais voyez, j'y suis allé, pas en rigolant, mais très paisible. Lorsque des décisions difficiles se présentent, le Saint-Esprit nous guide, nous inspire. Mais quand il n'y a pas de limite... Quand il n'y a pas de limite, quand on fait ce qu'on veut, le risque de tomber est très grand. Alors, le respect de mes alliances me fixe des limites. Ces limites, elles évitent que je m'égare dans des sentiers inconnus, dangereux. L'instauration de limites rend les choses simples, claires. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons sortir, nous pouvons aller, venir, faire les choses que le Seigneur nous a commandé de faire, parce que nous savons qu'il ne nous a jamais donné des commandements que nous ne pourrions pas accomplir. Et quand c'est difficile, eh bien, il prépare la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il a dit que nous devions accomplir. C'est ça, avoir la foi. Alors, c'est vrai que parfois les commandements sont difficiles à respecter. Mais il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Souvenons-nous qu'il a promis qu'il nous donnerait le moyen d'obéir. Et quand on obéit, on comprend tout d'un coup qu'on devient un modèle pour les autres. Et quand on a cette impression-là, eh bien, d'être un bon modèle, ça nous aide et ça fait grandir en nous le désir de devenir encore meilleur. Oui ou non? Bien sûr. Alors, je crois qu'il en est fait selon notre foi, c'est-à-dire selon notre croyance. Nous avons décidé de croire ce que la Bible dit, c'est pourquoi notre foi est basée là. D'autres gens basent leur foi sur d'autres choses, sur des raisonnements, sur des philosophies, sur toutes sortes de trucs. Il y en a qui, toute leur vie, se sont battus avec des raisonnements humains, philosophiques, rejetant Dieu et sur leur lit de mort, misérablement, tremblotant, ont... Priez, Seigneur, si tu existes, mon Dieu, pardon. Oh, alors, combien de témoignages minables comme ça? C'est horrible. Si nous nous appliquons à accomplir avec exactitude chaque commandement, Dieu récompensera nos actes. Ça, c'est certain. Et j'en témoigne. Nous savons par notre Père, que notre Père Céleste comprend aussi que nous ne sommes pas parfaits. Alors il nous offre la possibilité de nous repentir et de faire mieux la prochaine fois. Quand on échoue, ben, il nous donne la possibilité de grandir, de faire mieux. Ça le glorifie, ça aussi. Alors ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore atteint cette sacro-sainte perfection à laquelle vous aspirez tant. Nous devons être déterminés à rester sur notre position. Nous sommes sur la montagne, mes frères et sœurs. Eux, ils sont descendus dans la vallée de Sodome et Gomorre. Vous vous rappelez Abraham avec son neveu Lot, ils étaient là en train de garder les troupeaux. Puis d'un coup, Lot, il regarde en bas et dit « Ah, cette vallée, est-ce que c'est beau ? M'en dirait un paradis !» C'est écrit, hein ?« Ah oui, Sodome et Gomorre, ça ressemble à un paradis. Ben écoute, voir, je vais y aller, hein, parce que ça a l'air d'être bien mieux qu'ici. » Mais il est allé, il a bien vu. Hein? C'est pas à vous de descendre, c'est à eux de remonter. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pas à vous de descendre là pour foutre votre nez dans leur cochonnerie. C'est à eux de monter pour venir respirer ce que c'est que la beauté, la pureté, la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, les choses nobles. Ce qu'ils appellent évolution, c'est une régression. Vous savez, du temps de, puisque je vous parle de Sodome et Gomorre, ce sont les anges qui sont descendus vers Sodome et Gomorre pour aller sauver Lot. Alors oui, si vous êtes un ange de Dieu, vous pouvez descendre sauver Lot. C'est-à-dire si vous êtes envoyé de Dieu, vous pouvez aller sauver Lot. Vous pouvez descendre pour aller sauver Lot. Mais souvenez-vous que le fait de sauver Lot, ça va condamner les villes entières. C'est pas de la rigolade. Et si vous n'êtes pas obéissant dans les petites choses, ne descendez surtout pas en zone grise. N'approchez pas du bas. Vous finiriez dans la zone sombre. Ne faites pas les malins, ne pensez pas que vous êtes plus fort que les autres. Le diable, votre ennemi, a beaucoup plus de connaissances et de trucs que vous ne pouvez l'imaginer pour vous faire tomber là où vous n'imaginez même pas. Nous devons connaître les principes du royaume et rester sur nos positions. Le monde est en train de s'écrouler et ils disent que c'est nous qui avons tort. Bande de malades! Vous pouvez rester sur vos positions même si votre entourage n'est pas dans la même position. S'ils n'ont pas d'amour, ça n'a aucune importance, mes frères et sœurs. Il faut que toi, tu sois fidèle pour que tes vêtements soient purifiés et que tu sois une bonne influence. Mais n'attends pas que eux soient comme toi, non. Toi, reste dans ta position. Même si les autres choisissent le chemin large et spacieux, celui sur lequel ils avancent, il est peut-être pavé de bonnes intentions, ils sont peut-être sincères, ils ont peut-être de bons sentiments, ils ont peut-être la volonté de faire le bien. Cependant, ils vont tout droit dans le gouffre. Comme, j'irais, et même pire que les grandes civilisations qui nous ont précédés. Étudiez l'histoire, regardez les histoires des civilisations qui nous ont précédés, des royaumes. Pourquoi est-ce qu'ils ont chuté? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont abandonné les principes de Dieu. Dieu a gravé la loi, sa loi, dans le cœur de tous les êtres humains. Vous allez dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle époque, vous allez voir, c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours les mêmes choses qui sont dans le cœur de l'homme. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Bon, de temps en temps, on a besoin de se rafraîchir la mémoire, hein, mais on le sait en nous-mêmes. Et quand une civilisation, quand un royaume décide de balancer tout ça et de faire n'importe quoi, eh bien, c'est la fin. Lisez autre chose que Mickey. Frères et sœurs, les disciples qui connaissent mal les limites, qui ne les ont pas bien définies dans leur tête et dans leur cœur, ils finissent par se convaincre que, bon, finalement, ce n'est pas grave, puisque Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Et puis, il y a la pression des groupes scolaires, il y a la pression des groupes professionnels. Ça peut être très fort. Et le disciple qui ne se fortifie pas, qui ne définit pas véritablement ses limites, le disciple qui est comme ça un peu lâche, eh bien, il va finir par céder. Parce que ce que disent ses amis semble tellement sensé. Il y a tellement d'amour et de bonne volonté, même si ça va contre les principes de Jésus. Alors il cède. Mes frères et sœurs, quand vous suivez les principes de Jésus, c'est là que vous êtes digne de demander sa protection. Autrement, ne faites pas ça, ne demandez pas la protection de Dieu, ce ne sera rien. Alors il faut que vous choisissiez. Ève a choisi de croire le serpent. Les fous se sont moqués de Noé pendant la construction de l'arche. Les malades se sont fait un veau d'or pendant que Moïse était en chemin avec les lois de Dieu. Les religieux et les politiques, soutenus et poussés par la foule des imbéciles et des possédés, ont crucifié Jésus. Et aujourd'hui, vous, dans quel camp vous êtes ? Dans celui du monde ou dans celui du Créateur du monde ? Quittez la zone sombre, quittez la zone grise, venez dans la lumière, marchez dans la lumière. N'ayez pas peur d'être différent. Ah, c'est ça aussi, hein ? La peur d'être différent, de passer pour un zombie bizarre qui n'est pas comme les autres, qui ose dire des choses différentes. N'ayez pas peur d'être différent. Être chrétien, c'est être différent. Moi, je suis tellement fier d'être différent, de ne pas être comme tout le monde, à répéter les mêmes âneries. Ah, mais c'est légal. Vous voyez, je vous ai parlé de zones d'ombre, sombres, de zones grises, de zones claires. Jésus lui parle de froid, tiède ou bouillant. C'est la même chose. Maintenant, prenez votre position. Prenez votre position. Levons-nous et prions. Et vous qui regardez la télé ou qui écoutez sur Internet, joignez-vous aussi à nous. Prenez votre position. Seigneur notre Dieu, nous aimons ta parole, nous savons quelle est la vérité, tu es le créateur de ce monde, c'est toi qui sais comment ça marche. Et tu ne veux pas nous embêter, tu veux juste nous donner les bonnes lois pour que nous puissions faire les bonnes choses en temps voulu. Merci de nous aider, de nous guider, de nous bénir et de permettre que nous puissions être bénis dans ce monde de fous à l'heure actuelle, que nous puissions être une lumière, que nous puissions être un espoir, que les gens qui sont dans leur folie puissent nous reconnaître comme étant différents mais positifs, intelligents, d'une intelligence qui les dépasse, mais qui leur fait envie. Seigneur, je te prie que chacun ici puisse prendre en toute connaissance de cause la décision de te suivre fidèlement. Alors ceux qui veulent suivre Jésus, renouvelez votre alliance en mettant votre main sur votre cœur et en disant « Oui Jésus, tu es mon roi, je veux t'obéir du mieux que je peux. Oui Seigneur, je fais le serment de te suivre du mieux que je pourrai. Aide-moi à être fidèle chaque jour de ma vie, à grandir, à faire des progrès. Merci Seigneur aussi de me pardonner et puis de m'aider à marcher mieux. Que ton nom soit béni dans ma vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis ce pain et je bénis ce vin que nous allons prendre ici au sanctuaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, nous prenons ce pain, nous prenons ce vin. Nous nous rappelons qu'il est mort à notre place. Nous nous rappelons qu'il revient bientôt. Merci Seigneur notre Dieu de permettre que nous soyons de ceux qui allons partir avec toi dans l'enlèvement. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je demanderai à Olivier.